Je retiens que on est passé dans le dossier médical lié au désordre de la psyché d'une véritable littérature, une narration de l'histoire qui essayait de capter toute la richesse de ce qu'on appelle la maladie mentale à un vide. Effectivement, on peut voir aussi que dans la médecine somatique, ce qui s'appelle maintenant le evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine par la preuve, oblige les médecins à répondre à des questions fermées et donc à définir des profils standards qui font que si vous n'êtes pas vraiment dans ce profil, on a du mal à rentrer votre histoire dans dans l'ordinateur. Et ça a d'autant plus d'importance, c'est que la France, vous êtes encore, comme d'habitude, merveilleusement et intelligemment en retard sur l'évolution du monde. Dans d'autres pays voisins de la France, à commencer par l'autre côté de la frontière suisse, anglaise ou hollandaise, c'est de l'entrée de vos données dans l'ordinateur que dépend le tarif qui va être appliqué à la profession de santé ou à l'hôpital pour la prise en charge de cette pathologie. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire rentrer quelqu'un dans un moule, vous n'allez pas être payé et l'hôpital ne va pas toucher les journées d'hospitalisation qui correspondent à ce moule. Alors, c'est vrai que on a une espèce de fierté de la biodiversité, on est tous différents, on a tous une identité, etc. Sauf que là, on rencontre un système qui veut réduire, vous avez appelé ça de la régression infantile, j'aime bien cette expression, un système qui va nous forcer à rentrer dans des moules alors qu'on tient notre fierté d'être humain de ne pas être dans les moules, mais d'être unique. Alors on va vous demander pour finir, avant notre débat, à Joël Jancé de nous donner alors peut-être avoir un regard plus somatique. La périnatalité, c'est vraiment un domaine dans lequel, au cours de ces 20-30 dernières années, la technologie a permis de faire reculer à la fois la morbidité et les pathologies et la mortalité périnatale, a permis de faire reculer aussi la mortalité maternelle. Et donc, c'est un des domaines dans lesquels la technologie a été un apport incontestable. C'est aussi un domaine dans lequel touche de très près à cette espèce révolution qui est aujourd'hui la fabrication des bébés, puisque finalement, une fois que le bébé est fabriqué, bah, il va quand même aller dans la maternité pour naître à ce monde. Sauf que au lieu d'avoir le papa et la maman sur la photo qui sont de chaque côté, il y a 6 papas et mamans qui, légitimement aujourd'hui, tels que sont faites les lois, peuvent dire qu'ils sont les parents de cet enfant. Alors Joël, je vous laisse la parole pour traiter ces sujets.
Alors bon, moi je suis un biomédecin clinicien, j'ai passé un bac philo, c'était la dernière année où on pouvait le faire, et je suis arrivée à la faculté de médecine en imaginant que j'allais avoir des sciences humaines, que j'allais apprendre l'histoire de la médecine, la psychologie, que sais-je, tout le fonctionnement humain, la psychanalyse, enfin beaucoup de choses qui ne m'ont jamais été proposées, donc ça a été la première désillusion. Et c'est une époque où en médecine, nous n'avions que nos mains, nos yeux et nos oreilles. Donc tout reposait sur la clinique, l'interrogatoire, la palpation, l'examen. Donc on a des yeux au bout des doigts, c'est sûr. Et puis progressivement sont arrivées toutes ces technologies merveilleuses. Et en gynéco-obstétrique, eh bien, c'était l'échographie. Alors l'échographie a permis très rapidement de faire le diagnostic et de malformations que l'on pourchassait en disant « Ah, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, c'est merveilleux. » Et ça a débouché sans question sur des demandes d'interruption médicale de grossesse. Et on a pratiqué comme ça des interruptions sauvages, je dirais, pendant une dizaine d'années. Et ce ne sont que les psychanalystes et psychiatres, psychologues et pédopsychiatres qui, des années après, sont venus voir les maternités en disant « Écoutez, là, ça ne va pas du tout parce que vous avez provoqué et induit des catastrophes et il faut réfléchir à vos pratiques et il faut changer totalement, radicalement, de manière de faire. » À ce moment-là est arrivée la fécondation in vitro où on se dit « Ah, mais c'est merveilleux, toutes ces femmes qui ont retiré des trompes parce qu'elles faisaient des grossesses extra-utérines, maintenant, on va pouvoir leur permettre d'avoir des enfants. » Bien sûr, et là on s'est jeté à corps perdu dans la fécondation in vitro sans réfléchir, avec des stimulations par les traitements hormonaux et ne sachant même pas si les femmes en avaient vraiment besoin, mais ne vous inquiétez pas madame, dans 3 mois vous serez enceinte, tout va aller bien, etc. etc. Et là aussi, les psychanalystes et les psychologues nous ont dit, attendez là, vous êtes en train de faire des catastrophes, donc il faut réfléchir, il faut se poser et... l'éthique médicale a pointé son nez. Et donc, quand on a vu tout ça, on se dit, la médecine, c'est bien, mais le progrès technique, si on n'évalue pas avant de l'utiliser, ses conséquences et ses dangers, eh bien, on se fourvoie dans une médecine sauvage et une médecine irréfléchie. Alors sinon, l'accélération du temps, ça aussi c'est quelque chose qu'on a beaucoup apprise, car quand vous faites un diagnostic de malformation, eh bien chez un fœtus, nous avons appris très très vite qu'il ne faut pas faire l'interruption le lendemain, qu'il ne faut pas gommer, enfin penser qu'on va gommer en dépit de la demande des patients, mais il faut les laisser élaborer, il faut les voir plusieurs fois, il faut qu'elles rencontrent un petit peu toute l'équipe, la psychologue du service, les pédiatres, et que quand elles se sentent beaucoup plus prêtes, eh bien, on règle et à ce moment-là, on pratique l'interruption médicale de grossesse. Et c'est un temps, ce temps de deuil, d'élaboration psychique. Nous l'avons bien compris et j'ai rencontré récemment, dans un autre contexte, une patiente qui est venue me raconter il y a 20 ans, j'ai vécu ça chez vous et j'avais été très choquée par le temps que vous nous demandiez d'attendre, mais si vous saviez ce que vous avez bien fait, toute l'équipe, et maintenant je suis psychologue. Voilà. Alors, là je vais vous parler plus spécifiquement de l'intimité et le médecin face aux nouvelles technologies, pas forcément à propos de la gynécologie obstétrique, mais de la pratique médicale générale et qui devrait être la pratique médicale que l'on enseigne, qu'en tout cas dans les centres qui s'occupent d'éthique on essaie de promouvoir, mais ça n'est quand même pas la majorité malheureusement qui la pratique. Alors intimus dit le latin ou le plus intérieur. Selon François Julien, l'intime est ce qui est contenu au plus profond d'un être, mais il est aussi ce qui lie étroitement par ce qu'il y a de plus profond. Cette relation s'identifie sans réserve à la confiance et c'est l'essence de la relation médecin-patient. Il y a 50 ans, dans La condition de l'homme moderne, Hannah Arendt écrivait que le peu qui nous reste de strictement privé dans notre civilisation se rapporte au fait d'avoir un corps. Et pourtant, comme le dit Christian Bobin, nous assistons bien à une crise de l'intime où la personnalité est menacée. Les pratiques pharmacologiques, l'usage massif des médicaments et des drogues, et les recherches biotechnologiques, la stimulation cérébrale profonde, la robotisation de l'organisme, entre autres, s'apprêtent à bouleverser de fond en comble ce qui reste de l'identité du moi. Solzhenitsyn disait qu'une existence libre a besoin de lieux et de temps de retrait et de réserve. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de les recréer ou de les maintenir. Sinon, si nous n'y prenons pas garde, notre démocratie parviendra à réaliser ce qu'aucun régime totalitaire n'avait réussi à faire. L'abolition complète de l'existence privée, la ruine de la subjectivité. Que vient chercher le malade auprès du médecin ? C'est la rencontre de deux personnes dont l'une vient avec une souffrance et l'autre cherche à l'en libérer. Il se place comme un enfant vis-à-vis de ses parents. La maladie infantilise toujours, ne serait-ce que par la dépendance qu'elle induit. Lorsque l'intimité entre en médecine, par la confidence, par le dévoilement des sentiments et du corps du patient, il s'agit de la construction à deux, parce que c'est là le rôle du soignant, du récit du malade et par là de son identité. Et en citant Jean-Claude Kaufmann, pour partager son intimité, le médecin est-il l'équivalent d'Internet ? Les morceaux d'intime que les patients lui confient sont-ils les mêmes que ceux qu'il livre à un réseau social ? Pas tout à fait. Sur Internet, il est facile de mentir, de se construire une autre histoire, idéalisée, qui peut aller jusqu'à la création d'un avatar de soi-même, habillé d'un corps rêvé, dépourvu de ses handicaps. Alors que chez le médecin, s'instaure un rapport à l'intime qui est plus vrai, plus proche de la réalité. Lorsqu'il y a maladie, le patient tente à vouloir livrer l'intime qu'il estime authentique. Le rapport soignant, en tout cas, est conçu pour favoriser l'expression de la vulnérabilité. D'où, d'ailleurs, l'absolue nécessité qu'il soit protégé par le secret. Il représente l'opposé des relations qui se nouent dans l'univers économique, où la première nécessité est de cacher ses faiblesses pour ne révéler que ses avantages réels ou imaginaires. Et en France, une enquête a dit récemment, la chose qui est considérée comme la plus intime et la plus secrète, c'est le rapport, c'est touche le rapport à l'argent. En France, on ne parle pas d'argent. Et c'est plus intime encore que le corps. Que va apporter la télémédecine ? Alors, voici comment elle nous est présentée. Le but de la télémédecine est le suivi le plus rapproché du patient sur le long cours. Il ne s'agit pas de l'utiliser à elle seule, mais de l'intégrer dans la médecine traditionnelle. Bien au-delà des objectifs de réduction des coûts, elle a une visée de prévention dans laquelle il ne s'agit plus seulement de traiter des crises aiguës, mais d'éviter la détérioration de l'état de santé qui serait due à une prise en charge en présentiel pas assez réactive. Sous-entendu, nous n'avons plus assez de médecins. La véritable révolution ne se fera pas au niveau technologique, mais dans le développement d'une coopération entre professionnels de santé centrée sur le patient. La télémédecine est seulement une modalité organisationnelle. Si c'était le cas, ce serait très bien, ce serait parfait. Mais quels en sont les dangers ? Le premier et le plus inquiétant est représenté par l'exposition de la vie privée. La vulnérabilité de la télémédecine, dans le cadre de la télémédecine, ça peut être un patient accompagné d'un médecin généraliste ou d'un psychologue ou d'une infirmière, un infirmier, qui demande une consultation à un spécialiste, parfois en urgence, parfois au SAMU, parfois... Bon. Et cette vulnérabilité dans le cadre de la diffusion à distance, dans l'urgence, des informations et des images est considérable lorsque le visage d'une personne ne peut être dissimulé et que les précisions relatives à l'intimité de sa vie privée sont susceptibles d'être divulguées malgré les précautions prises. Sachant déjà l'ampleur de l'agression que l'homme moderne peut subir sur Internet, on imagine ce qu'elle peut devenir dans le cadre de la télémédecine. Plus nous communiquons et divulguons des données personnelles, plus la probabilité que des personnes ou des organisations mal intentionnées accèdent à ces informations est importante. Dans ce contexte, la cybercriminalité constitue un facteur à ne pas négliger. Le droit de la protection des données repose sur la liberté qu'a l'individu de décider lui-même quand et dans quelle mesure des informations relevant de sa vie privée peuvent être communiquées à autrui. Alors, n'imaginez pas que ça soit des choses qui n'arrivent jamais. Au sein de mon propre hôpital, mes examens ont été rendus publics, des examens assez graves et assez secrets d'autres personnes assez connues se sont retrouvés aussi dans l'intranet parce qu'on a installé le système, que ce n'était pas encore parfaitement codé, mais même maintenant, si on veut aller dans un dossier, on peut le faire. La tentation pourrait être grande de la part des assureurs privés d'augmenter la prime de risque en l'absence de communication de ce type d'informations. Voire pour l'assurance maladie, d'augmenter le reste à charge si une personne a pris du poids et a fait peu d'exercice. En Allemagne, c'est en train d'être installé. Les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon ont déjà beaucoup d'informations sur les patients. Prenons l'exemple de l'application pour iPhone Santé. Elle calcule le nombre de pas par jour, dont nous parlions tout à l'heure, de son utilisateur. Cette application n'est pas soumise à la législation sur les données de santé comme toutes celles du bien-être. C'est quand même 60% des applications. Et il m'a été dit qu'on ne pouvait pas supprimer cette application, ou en tout cas, mais j'ai l'impression que sur mon smartphone, j'ai pu ne pas la mettre en connexion. La combinaison de différentes séries de mesures par des appareils connectés permet de tirer des conclusions sur notre état psychique et de détecter des maladies à un stade précoce, les activités compulsives, les achats absolument irraisonnés, etc., etc. Surtout si nous diffusons d'autres informations intimes par le biais des réseaux sociaux, de nos pérégrinations sur Internet et de nos achats en ligne. De telles données répondent à une forte demande, ce qui accroît leur valeur marchande. Elles intéressent en particulier les services de marketing, les employeurs et nombre d'autres acteurs. Les dérives possibles seraient de voir des médecins qui ne rendraient que des avis par télémédecine pour la simplicité et le gain de temps. Et malheureusement, je pense que beaucoup sont prêts à le faire. Par exemple, la tentation pour les cabinets de téléimagerie serait de se développer uniquement sur ce mode de fonctionnement. Dans les pays anglo-saxons, certains cabinets externalisent les expertises dans les pays du Sud, très loin. Et là, les règles éthiques ne sont plus les mêmes. Alors, quel changement dans la pratique médicale ? Avant, prévalait l'art de la clinique, c'est-à-dire pour un médecin d'interpréter les différents symptômes et de poser son diagnostic clinique. Il avait plus de latitude dans l'établissement de son diagnostic. Aujourd'hui, on est passé à la science médicale, fondée sur des études cliniques, des groupes de patients, des protocoles de soins, plus normés. Bien sûr, il est important d'évaluer l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic ou de traitement. C'est la médecine fondée sur les preuves, qui recouvre 30 à 50% de notre pratique. Mais le fond de la médecine repose sur la relation, qui demande du temps, et une implication personnelle forte, alliant le savoir scientifique à l'expérience technique et humaine. Nous ne pouvons pas la réduire à l'application aveugle de protocoles. Chaque être humain est unique et doit être traité comme tel. Moi, je dis toujours, les protocoles, ce sont des lignes de conduite pour ne pas oublier que dans telle situation, on doit utiliser tel antibiotique, etc., etc. Mais ça ne doit pas vous rendre stupide. Il faut réfléchir. Continuez à penser. La consultation médicale passe actuellement par le truchement de l'ordinateur, qui détourne le regard du médecin, plus occupé à remplir des cases et à s'exaspérer devant un bug qu'à entretenir une relation empathique avec son patient. Les dossiers sont techniques, comme vous le disiez, et vides d'histoire. On ne met plus rien. On met juste deux, trois aspects purement techniques. Les infirmiers sont des soignants, alors que nous, les médecins, devenons de plus en plus traitants et de moins en moins soignants, des ingénieurs de la santé rivés à leur écran. Dans la pratique de la télémédecine, que devient l'effet placebo fondé sur l'empathie, l'écoute, le charisme du médecin, le pouvoir de son regard, de sa voix, de son toucher? C'est un pan entier de l'acte médical qui s'effondre au détriment du patient. Le médecin est un homme puissant, qui sait, qui peut, qui a le droit de toucher le corps, d'entrer dans le corps, de couper dans le corps. Son pouvoir de vie et de mort, bien qu'il soit imaginaire, le met à part du reste de la société et cela renforce son devoir de comportement éthique. La relation entre une personne malade et celle qui le soigne doit lui permettre de prendre la décision la plus juste et d'être reconnue dans sa faculté de décider, d'accepter ou de récuser. De refuser. Et ça, c'est intemporel. Ça fait partie de l'attente des patients aujourd'hui. Il faut prendre en compte le regard de la personne, et ça n'est jamais fait ou presque, non sur sa maladie, mais sur l'expérience de sa maladie. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un diabète, d'avoir une chimiothérapie qui vous détruit? Certes, elle guérit la maladie, elle guérit l'objet, mais elle tue le sujet et personne n'est intéressé par traiter le sujet. Le rapport à la maladie en plus correspond à une vérité subjective, complexe et évolutive à laquelle il faut s'adapter. Enfin, que dire de la transparence? La majorité des patients n'aura pas la culture médicale suffisante ni l'expérience pour comprendre les informations, quand bien même elles seraient mises à leur disposition sans filtre. Et alors là, on voit les catastrophes provoquées par la consultation d'Internet après un diagnostic, par exemple, de cancer. Il y a zéro filtre. On ne sait même pas les statistiques, à qui elles s'adressent, si c'est un... Ils sont incapables de savoir si c'est, il y a une métastase ganglionnaire, s'il n'y en a pas, quelle est la forme histologique, etc., etc. Donc, il faut que tout ça soit filtré, expliqué. Par ailleurs, les simulacres d'information et de recueil du consentement peuvent être très destructeurs pour un patient en situation de grande vulnérabilité, alors que la relation de confiance doit permettre à la personne d'avoir envie de se soigner. Et qui n'a pas, avant une intervention chirurgicale, ou entendu le chirurgien disant, ben voilà, oui, il faut vous opérer, vous avez telle chose, mais vous verrez, c'est indispensable, il faut pour telle et telle raison. Et puis tout d'un coup, le médecin change d'aspect physique, change de ton, et comme il tire sa question de cours, voilà, les complications que vous pouvez avoir, peut-être pourcentage urasana et pourcentage urasim, le malade s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est de savoir si ce médecin-là sera là pour le surveiller, s'il y a une complication, s'il va la prendre en charge et s'il fera ce qu'il faut. Point. Faut-il retourner au paternalisme médical éclairé, comme le préconise Emmanuel Hirsch, qui dirige le Centre d'éthique de l'assistance publique ? Quelle sorte de médecin, et ça c'est hyper intéressant, quelle sorte de médecin le médecin choisit-il lorsqu'il est malade ? Celui à qui il peut déclarer « Je connais vos compétences scientifiques et votre expérience. J'espère que vous êtes un peu humain, ça il le pense dans son arrière-cerveau. » Et je me confie à vous, vous prendrez les décisions me concernant en m'expliquant ensuite. Les médecins se comportent de la sorte pour eux-mêmes et leur famille, ce qui reste le meilleur critère de qualité, bien que pas du tout scientifique. N'oublions pas que lorsque l'on regarde les rapports de l'OMS sur la santé dans le monde, loin devant l'efficacité de la biotechnologie et des médicaments, prédomine la possibilité d'avoir accès aux soins. Donc le milieu socio-économique. Par exemple, des millions de femmes meurent chaque année dans le monde du fait de leur grossesse, parce qu'elles n'ont aucun accès aux soins. Les nouvelles technologies favorisent-elles une médecine de l'individu et de la singularité, ou conduisent-elles à une médecine standardisée ? Il s'agit d'une question fondamentale, et il faut réfléchir à nouveau sur la notion de secret médical, qui doit être distingué de l'information médicale. Il faudrait donc reprendre ces concepts à l'aune du contexte actuel. La préservation de la personne dans son intime et son privé sont essentiels. Concernant par exemple les tests génétiques, la séropositivité HIV, le cancer et autres maladies graves, la circulation d'informations peut avoir de graves conséquences et peut être source de discrimination. Et pour terminer, je cite les conclusions de Bertrand Kiefer lors d'un colloque en Suisse en 2011 dont le titre était « Le médecin et l'intimité ». Quelle forme d'intimité survivra à l'évolution actuelle de la médecine, à la puissance administrative, à la standardisation des procédures, à la virtualisation du savoir ? Peut-être aucune. Ce serait la victoire complète d'une médecine opérationnelle. Mais la nouvelle médecine pourrait aussi engendrer une autre forme d'intimité. L'humain ne cesse de réagir à sa réduction chiffrée ou virtuelle. Et ses ressources, y compris irrationnelles, apparaissent presque infinies. L'intimité n'est pas réductible à un fonctionnement. Voilà sa principale caractéristique. Il n'y a plus que l'intimité qui puisse faire événement. Dans une époque où tout ce qui importe relève du calcul, du chiffrable, donc du prévisible. L'intimité mise aux normes, rendue interchangeable ou niée, méfions-nous. Cela pourrait dire que nous aurions disparu dans un monde virtuel ou simplement cessé d'exister. Un danger permanent et vertigineux, comme le transfert potentiel du cerveau humain dans un ordinateur et la disparition du corps que nous avons évoqué lors de ce séminaire.